11 heures, dit Rénine. Que ce soit elle ou lui, ou l'un des joueurs, ou l'une des compagnes de ces joueurs, ou n'importe qui, il ne se passera plus beaucoup de temps avant que quelqu'un ne s'en aille au rendez-vous. Il se passa tout de même 20 minutes, puis 25, et personne ne bougeait. « Madame d'Imbreval y est peut-être partie, » insinua Hortense, qui devenait nerveuse. « Elle n'est plus sur son balcon. » « Si elle est aux Trois Mathildes, nous allons l'y surprendre. » Il se levait lorsqu'une nouvelle dispute surexcita les joueurs, et l'un d'eux s'exclama « Consultons d'Imbreval !»«
Soit, j'accepte, si toutefois il veut bien nous servir d'arbitre. Il était maussade tout à l'heure. »
On appela.
D'Imbreval !
D'Imbreval ! D'Imbreval !
Ils remarquèrent alors que d'Imbreval avait dû refermer sur lui le battant de la porte, ce qui le maintenait dans une demi-obscurité, ces sortes de cabines n'ayant pas de fenêtres.
« Il dort ! Réveillons-le !
D'Imbreval !
D'Imbreval !»
Tous quatre se rendirent là-bas, commencèrent par l'appeler et, ne recevant pas de réponse, cognèrent à la porte.
« Bien quoi, d'Imbreval, vous dormez ?»
Sur la terrasse, Serge Rénine s'était levé soudain. D'un air si inquiet, Hortense en fut surprise. Il mâchonna « Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. » Et comme Hortense l'interrogeait, il dégringola l'escalier et se mit à courir jusqu'à la cabine. Il y arriva au moment où les joueurs essayaient d'ébranler la porte. « Halt ! Les choses doivent être faites régulièrement. »
« Quelle chose ?»
Il examina les persiennes qui surmontaient chacun des battants et s'avisant qu'une des lamelles supérieures était à moitié brisée, il se suspendit tant bien que mal au toit de la cabine et jeta un coup d'œil à l'intérieur. On l'interrogea vivement.
« Qu'est-il ?
Vous pouvez voir ?»
Il se retourna et dit aux quatre messieurs « Je pensais bien que si Monsieur d'Imbreval ne répondait pas, c'est qu'un événement grave l'en empêchait. »
Un événement grave ?
Oui. Il y a tout lieu de penser que Monsieur d'Imbreval est blessé ou mort.
Comment mort ?
Il vient de nous quitter.
Rénine sortit son couteau, fit jouer la serrure et ouvrit les deux battants. Il y eut des cris de terreur. Monsieur d'Imbreval gisait sur le plancher, à plat ventre, les deux mains crispées à son veston et à son journal. Du sang coulait de son dos et rougissait sa chemise.
« Oh ! Il s'est tué ! » !»«
Comment se serait-il tué ? La blessure est au plein milieu du dos, à un endroit où la main ne peut atteindre. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas d'armes dans la cabine. » Les joueurs protestèrent.
Un crime alors ?
Mais c'est impossible ! Personne n'est venu ! Nous aurions bien vu !
Personne ne pouvait passer sans que nous voyions !
Les autres messieurs, toutes les dames et les enfants qui jouaient au bord de l'eau, étaient accourus. Rénine défendit l'approche de la cabine. Il y avait là un docteur. Lui seul entra. Mais il ne put que constater la mort de Monsieur d'Imbreval. Mort provoquée par un coup de poignard. À ce moment, le maire et le garde champêtre arrivèrent avec des gens du pays. Les constatations d'usage furent faites et l'on emporta le cadavre. Quelques personnes étaient déjà parties afin de prévenir Thérèse d'Imbreval, que l'on apercevait de nouveau sur son balcon. Ainsi, le drame s'était accompli sans qu'aucune indication permît de comprendre comment un homme, enfermé dans une cabine, protégé par une porte close dont la serrure était intacte, avait pu être assassiné en l'espace de quelques minutes et devant 20 témoins, autant dire 20 spectateurs. Personne n'était entré dans la cabine. Personne n'en était sorti. Quant au poignard dont Monsieur d'Imbreval avait été frappé entre les deux épaules, on ne parvint pas à le découvrir. Et tout cela eût évoqué l'idée d'un tour de passe-passe accompli par un habile magicien, s'il ne se fût agi d'un crime effroyable, exécuté dans les conditions les plus mystérieuses. Hortense ne put suivre, comme l'eût voulu Rénine, le petit groupe de gens qui se rendaient auprès de Madame d'Imbreval. L'émotion la paralysait. C'était la première fois que ses aventures avec Rénine l'amenaient au cœur même de l'action, et qu'au lieu d'apercevoir les conséquences d'un crime ou d'être mêlée à la poursuite des coupables, elle se trouvait en face du crime lui-même. Elle en demeurait toute frissonnante et balbutiait « Quelle horreur ! Le malheureux ! Oh, Rénine, vous n'avez pas pu le sauver, celui-là ! Et c'est cela qui me bouleverse par-dessus tout, c'est que nous aurions pu, que nous aurions dû le sauver, puisque nous connaissions le complot. » Rénine lui fit respirer un flacon de sel, et quand elle eut recouvré tout son sang-froid, il lui dit, en l'observant avec attention, « Vous croyez donc qu'il y a corrélation entre cet assassinat et le complot que nous voulions déjouer ?»«
Certes !»«
Alors, puisque ce complot était ourdi par un mari contre sa femme, ou par une femme contre son mari, et puisque c'est le mari qui a été tué, vous admettez que Madame d'Imbreval... »
Oh non, impossible! D'abord, Madame d'Imbreval n'a pas quitté son appartement. Et ensuite, je ne croirai jamais que cette jolie personne soit capable... Non, non, il y a autre chose, évidemment.
Quelle autre chose?
Je ne sais pas. On a peut-être mal entendu ce qui s'est dit entre le frère et la sœur. Vous voyez bien que le crime a été commis dans des conditions toutes différentes, à une autre heure, à un autre endroit.
Et par conséquent, que les deux affaires n'ont aucun rapport.
Oh, c'est à n'y rien comprendre. Tout cela est si étrange.
Rénine eut un peu d'ironie. Mon élève ne me fait pas honneur aujourd'hui.
En quoi donc?
Comment? Voilà une histoire toute simple qui s'est accomplie sous vos yeux, que vous avez vue se dérouler comme une scène de cinéma, et tout cela demeure pour vous aussi obscur que si vous entendiez parler d'une affaire qui se serait passée dans une cave à 30 lieues d'ici. Hortense était confondue.
Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Vous auriez compris? Sur quelle indication?
Il regarda sa montre.
Je n'ai pas tout compris. Le crime lui-même, dans sa brutalité, oui. Mais l'essentiel, c'est-à-dire la psychologie de ce crime, là-dessus, aucune indication. Seulement, il est midi. Le frère et la sœur, voyant que personne ne vient au rendez-vous des trois Mathilde, descendront jusqu'à la plage. Ne pensez-vous pas qu'alors... nous serons renseignés sur le complice que je les accuse d'avoir et sur le rapport qu'il y a entre les deux affaires.
Ils gagnèrent l'esplanade que bordent les chalets aux villes et où les pêcheurs remontent leur barque à l'aide de cabestans. Il y avait beaucoup de curieux à la porte d'un des chalets. Deux douaniers de faction en défendaient l'entrée. Le maire fendit vivement la foule. Il arrivait de la poste où il avait téléphoné avec Le Havre. Au parquet, on avait répondu que le procureur de la République et un juge d'instruction se rendraient à Étretat dans le courant de l'après-midi.
Cela nous donne tout le temps de déjeuner. La tragédie ne se jouera pas avant 2 ou 3 heures. Et j'ai idée que ce sera corsé.
Ils se hâtèrent cependant. Hortense, surexcitée par la fatigue et par le désir de savoir, ne cessait d'interroger Rénine, qui répondait évasivement, les yeux tournés vers l'esplanade que l'on apercevait par les vitres de la salle à manger.
« C'est eux que vous épiez ?»«
Oui, le frère et la sœur. »«
Vous êtes sûr qu'ils se risqueront ?»«
Attention, les voici. » Il sortit rapidement. Au débouché de la rue principale, un monsieur et une dame avançaient d'un pas indécis, comme s'ils n'eussent point connu l'endroit. Le frère était un petit homme chétif, au teint olivâtre, coiffé d'une casquette d'automobiliste. La sœur, petite aussi, assez forte, vêtue d'un grand manteau, leur parut une femme d'un certain âge, mais belle encore,
sous la voilette légère qui lui couvrait la figure. Ils virent les groupes qui stationnaient et s'approchèrent. Leur marche trahissait de l'inquiétude et de l'hésitation. La sœur aborda un matelot. Dès les premières paroles, sans doute lorsque la mort d'Imbreval lui fut annoncée, elle poussa un cri et tâcha de se frayer un passage. Le frère, à son tour, s'étant renseigné, joua des coudes et proféra en s'adressant au douanier
« Je suis un ami d'Imbreval. Voici ma carte. Frédéric Astin. Ma sœur, Germaine Astin, est intime avec Madame d'Imbreval. Il nous attendait. Nous avions rendez-vous. »
On les laissa passer. Sans un mot, Rénine, qui s'était engagée derrière eux, les suivit, accompagnée d'Hortense. Au deuxième étage, les d'Imbreval occupaient quatre chambres et un salon. La sœur se précipita dans l'une de ces chambres et se jeta à genoux devant le lit où l'on avait étendu le cadavre. Thérèse d'Imbreval se trouvait dans le salon et sanglotait au milieu de quelques personnes silencieuses. Le frère s'assit près d'elle, lui saisit les mains ardemment et prononça d'une voix qui tremblait
« Ma pauvre amie, ma pauvre amie !»
Rénine et Hortense examinèrent longtemps le couple qu'ils formaient et Hortense chuchota
« Et c'est pour cet individu qu'elle aurait tué ? Impossible !»
Cependant, ils se connaissent. Et nous savons que Frédéric Astin et sa sœur connaissent une tierce personne qui était leur complice. De sorte que...
Impossible !
Répéta Hortense. Et malgré toutes les présomptions, elle éprouvait pour la jeune femme une telle sympathie que, Frédéric Astin s'étant levé, elle alla s'asseoir auprès de Madame d'Imbreval et la consola d'une voix douce. Les larmes de la malheureuse la troublaient profondément. Rénine, lui, s'attacha dès l'abord à la surveillance du frère et de la sœur, comme si cela eût eu de l'importance. Et il ne quitta pas des yeux Frédéric Astin, qui, d'un air indifférent, commença une inspection minutieuse de l'appartement, visita le salon, entra dans toutes les chambres, se mêla au groupe et posa des questions sur la façon dont le crime avait été commis. Deux fois, sa sœur vint lui parler. Puis il retourna près de Madame d'Imbreval et s'assit de nouveau à son côté, plein de compassion et d'empressement. Enfin, il eut avec sa sœur, dans l'antichambre, un long conciliabule, à la suite duquel ils se séparèrent, comme des gens qui se sont mis d'accord sur tous les points. Frédéric s'en alla. Le manège avait bien duré 30 à 40 minutes. C'est à ce moment que déboucha devant les chalets l'automobile qui amenait le juge d'instruction et le procureur. Rénine, qui n'attendait leur arrivée que plus tard, dit à Hortense « Il faut se hâter. À aucun prix ne quitter Madame d'Imbreval. » On fit prévenir les personnes, dont le témoignage pouvait avoir quelque utilité, qu'elles eussent à se réunir sur la plage, où le juge d'instruction commençait une enquête préliminaire. Il devait ensuite se rendre auprès de Madame d'Imbreval. Toutes les personnes présentes sortirent donc. Il ne restait que les deux gardes et Germaine Astin. Celle-ci s'agenouilla une dernière fois près du mort et, courbée devant lui, la tête entre ses mains, pria longuement.